Bonjour à toutes et à tous, à vous qui êtes présents ici ce matin et à tous ceux qui nous suivent à distance. Que chacune et chacun soit béni au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. C'est lui qui règne et comme l'a lu Pierre, qui est amené à régner dans nos vies, personnellement, individuellement. Merci à Séphora et Pierre pour ce début du culte et merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce culte ce matin. Nous avons chanté que nous sommes frères et sœurs. Amen. Vous n'y croyez pas ? Nous sommes frères et sœurs. Oula.
Amen.
Amen. Et moi, je vais vous parler de Massa et Meriba, épreuve et querelle. Je vais lire le texte principal. Exode 17, les versets 1 à 7. Toute l'assemblée des Israélites s'éloigna étape par étape du désert de Sin, selon les directives de l'Éternel. Ils campèrent à Réphidim, où ils ne trouvèrent pas d'eau à boire. Alors le peuple prit Moïse à partie en lui disant, « Donne-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit, « Pourquoi me prenez-vous à partie? Pourquoi voulez-vous forcer la main de l'Éternel ?» Pressé par la soif, le peuple se plaignit de Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte ? Est-ce pour nous faire mourir de soif ici, nous, nos enfants et nos troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ? Ils sont sur le point de me lapider. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et emmène avec toi quelques responsables d'Israël. Prends à la main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. » Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Il appela ce lieu Massa et Meriba, épreuve et querelle, parce que les Israélites l'avaient pris à partie et parce qu'ils avaient voulu forcer la main de l'Éternel en disant « L'Éternel est-il, oui ou non, au milieu de nous ?» Point d'interrogation. Massa et Meriba, épreuve et querelle. C'est un duo de mots auxquels nous sommes, dans notre vie, tous plus ou moins confrontés. C'est un duo de mots qui est même susceptible d'attaquer notre foi, de faire chanceler notre vie. Soit directement, soit par proche interposé. L'épreuve, de toute façon, à un moment ou à un autre, nous y sommes confrontés. La querelle, oui aussi, des fois nous y contribuons, des fois nous la subissons. Elle fait partie de l'humanité, même de notre humanité de chrétiens. L'épreuve ultime à laquelle personne n'échappe, c'est la mort. Scandale pour beaucoup, épreuve, mais aussi espérance dans la résurrection pour les chrétiens. Pour la querelle du niveau interrelationnel, c'est-à-dire entre deux personnes, par exemple, Au niveau des guerres, elle empoisonne la vie. La vie serait tellement parfaite, sans querelle, sans conflit, sans jalousie, sans orgueil. Et on peut rajouter des mots. Massa et Meriba, épreuve et querelle. Avant d'y revenir, je voudrais juste situer ce texte d'Exode 17, versets 1 à 7. Les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, installés depuis des générations en Égypte, pays riche, sont tout d'un coup réduits à l'esclavage, soumis à une forte oppression. C'est le résultat d'un nouveau régime politique en Égypte, d'une nouvelle dynastie et qui ne tolère pas les étrangers, les minorités dans le pays. Ils représentent pour eux un danger. C'est d'ailleurs le même schéma de tous les régimes de ce type. On peut tous les comparer, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier, ceux d'avant-hier, ceux de demain. Ils fonctionnent tous sur le même schéma. Ces nouveaux pharaons voulaient aussi montrer les muscles vis-à-vis des autres pays voisins et lancent un programme militaire d'envergure. Ils constituent l'armée la plus puissante de l'époque avec leurs chars de guerre. Il faut construire, justement par les Israélites, des infrastructures, des casernes. De cela, on peut déduire que le pharaon de l'Exode était sans doute Ramsès II, dont les archéologues déterrent en ce moment ces villes, casernes dans le delta. Voici d'ailleurs un premier exemple d'épreuve pour ses descendants d'Abraham. Bien installés, ils s'étaient multipliés, ils avaient prospéré, mais ils avaient oublié que leur patrie était ailleurs, selon la promesse de Dieu. Dieu utilise, et je dis bien utilise, cette épreuve pour leur faire prendre possession de leur patrie. Et dans notre récit, le peuple arrive à Rephidim, qui signifie vaste étendue, vaste espace, situé entre un désert et le mont Sinaï, après sa délivrance de l'oppression et la traversée miraculeuse de la mer des roseaux. Intéressons-nous d'abord à Moïse, son nom. Alors en égyptien, son nom signifie « fils, fils adopté ». Vous vous rappelez qu'il a été adopté par une fille du pharaon. En hébreu, son nom signifie « tiré de », sous-entendu « sorti du Nil ». Moïse a eu une vie extraordinaire. Avec le prophète Élie, il apparaît à Jésus. Dieu lui-même lui fait sa sépulture après 120 années de vie. Et l'Épître aux Hébreux dit de lui, Hébreux 3, verset 5, « Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. » Voilà un constat qu'on aimerait bien peut-être qu'un jour Dieu dise de nous. Quel témoignage! Sa vie est divisée en trois parties de 40 ans chacune et a plutôt mal démarré. Il est d'abord rescapé d'un génocide. Il est élevé à la cour du pharaon qui voulait le tuer. Mais il acquiert une éducation. Sa maman l'a confié au Nil dans la foi que Dieu allait intervenir. Le rôle des parents, ils font le meilleur. Mais chacun, une fois adulte, décide de sa vie. Chacun doit décider s'il confie sa vie à Dieu ou non, indépendamment de ce que les parents ont pu donner. Il est issu d'une famille de Lévites et il ne s'intéresse à ses origines qu'à l'âge de 40 ans. Alors c'est un peu typique de tous les enfants adoptés, mais il y a mis un peu de temps. Quand il veut intervenir pour eux, il tue dans l'affect un Égyptien qui maltraitait un compatriote. Il voulut bien faire, mais pose un acte lourd de conséquences. D'ailleurs, selon la loi du talion, qui était en vigueur à l'époque, dans l'humanité, œil pour œil, dent pour dent, Moïse devait subir le même sort, fût-il proche du pouvoir. Il s'enfuit donc. Je fais une rapide parenthèse pour nous chrétiens. Je rappelle que la loi du talion n'existe plus. Elle a été remplacée par la loi de l'amour en Jésus-Christ. Moïse commence sa deuxième vie pour 40 ans. Il rencontre des Madianites qui, par famille, sont liés aussi à Abraham. Il se marie, il a deux enfants, deux fils. Il vit sa vie de gardien de troupeau. C'est une vie assez solitaire dans de vastes étendues de cette région. Ce n'est plus la même vie qu'à la cour du Pharaon. Mais alors là, plus du tout. Mais sans doute qu'il a le temps de réfléchir. On ne sait pas beaucoup plus de cette vie-là, mais sans doute aussi qu'il acquiert l'expérience de cette région quand même difficile, relativement désertique. Et un jour, il a une rencontre décisive avec Dieu. Certes, il croyait en lui, mais il n'avait pas rencontré personnellement. D'ailleurs, les Madianites, comme vous pouvez le lire dans la suite du chapitre 17, avec son beau-père, croyaient plus ou moins aussi dans le Dieu d'Abraham, mais ils adoraient aussi d'autres divinités. Sa troisième vie, Dieu lui confie une mission, délivrer son peuple de l'esclavage. Moïse, normalement, au bout de ses deux vies déjà, doit être prêt. Mais sa réaction, nous la connaissons, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Et son argument de fond, c'est de dire, « Ah non, moi, je ne suis pas la bonne personne pour aller parler au Pharaon. De toute façon, je ne sais pas parler. » Peut-être qu'il a un peu désappris pendant ses 40 ans dans les régions désertiques à garder les moutons, puisque les moutons ne sont pas forcément quelqu'un avec qui on peut communiquer facilement. Quoique, bon. Mais Dieu insiste et Dieu lui donne les moyens. Dieu l'équipe spirituellement. Il lui donne le bâton. Alors, pas pour taper sur les gens, mais c'est le symbole de la force spirituelle que Dieu lui donne. Et parce que Moïse ne veut toujours pas y aller seul, parce que voilà, il ne sait pas parler, Dieu lui adjoint Aaron. Il n'est donc pas seul. Dieu l'équipe avec la force spirituelle et lui adjoint un coéquipier. Quand Dieu nous confie une mission, quelle qu'elle soit, il nous équipe. Comme Dieu confie une mission, une tâche à chacune et à chacun, Dieu nous donne ce qu'il faut pour que nous puissions l'accomplir. Mais il nous appartient d'y répondre. Massa et Meriba, épreuve et querelle. Moïse arrive donc à Réphidim, mais il y a un souci, il n'y a pas d'eau. Et comme le peuple n'avait pas encore appris la leçon, voilà donc cette nouvelle épreuve. On pourrait penser qu'après avoir échappé à la mort, après avoir vécu une délivrance extraordinaire, le peuple surmonterait cette épreuve haut la main. On voit bien aussi, finalement, si on considère sans doute notre vie, que nous ne sommes pas si éloignés que ça de ce peuple. Certains jours, nous vivons des choses extraordinaires, et puis le lendemain, nous pouvons peut-être douter, remettre en cause, ne pas avoir ce réflexe de se confier, ne pas avoir envie, comme l'a dit Séphora, oui, on n'a pas toujours envie de passer du temps avec Dieu, et cela nous arrive à tous. Non, au lieu de faire confiance à Dieu, il s'en prend à Moïse. Ils sont révoltés, en colère. Puis dans la plainte, ça nous fait penser à une dépression. Ce sont aussi des réactions normales, humaines, quand on est confronté à une épreuve. En cas de perte, de deuil, de maladie. Le but étant que par la foi, nous acceptions l'épreuve en faisant confiance à Dieu et qu'il en sortira quelque chose de meilleur. Parfois, ça dure. Parfois, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin d'aide, d'accompagnement. Le peuple avait Moïse, et notre communauté, notre église locale, offre aussi cette écoute, cette relation d'aide par des personnes compétentes. L'accompagnement se fait forcément aussi, en tant que chrétien, par la prière. Vider son sac devant Dieu est un grand soulagement. Mais comme dit, des fois, on n'y arrive pas tout seul. Au contraire, enfouir la colère en nous, la déprime, la dépression, ne sert à rien, sinon à ce qu'un jour cela explose. Vous savez bien que le jus de raisin mis en bouteille fermente et on a beau mettre un bouchon, quand la pression devient trop forte, le bouchon saute. Et il en va un peu de même pour nous. Si nous enfouissons tout cela en nous, ben le bouchon finira quand même par sauter. Moïse a prié, a fait confiance en Dieu. Lui-même vivait cette épreuve. Verset 4. Ils veulent me lapider, c'est quand même pas rien. Moïse a même crié à Dieu. Concernant la querelle, elle peut être liée à l'épreuve ou non. Elle vient aussi d'autres sentiments très humains, l'insatisfaction, la jalousie, l'orgueil. Et de la même façon, enfouir ces sentiments ne sert à rien. Un jour, la pression, souvent lors d'un événement spécial, par exemple, est trop forte. Et la seule solution, c'est de reconnaître, de confesser, de comprendre peut-être aussi, et de demander pardon. Pardon à Dieu, et parfois aux hommes. Une chose est sûre, Dieu accorde le pardon. Mais est-ce que l'autre va le faire? Comment va-t-il le recevoir? Mais peut-être a-t-il déjà pardonné? Pardonnons aussi à nous-mêmes et à mon prochain. Dieu répond. Il fait marcher Moïse et quelques responsables vers la montagne. Moïse suit les consignes de Dieu, frappe une fois le rocher et l'eau jaillit. L'eau jaillit. Ce n'était donc pas une petite mare, pas un tout petit filet. Il est écrit que l'eau jaillit. Ça montre l'abondance, la force de cette eau qui sort du rocher. L'eau vive jaillit pour celui qui croit en Dieu, en l'éternel Dieu. Proverbe 18, verset 14, « La source de la sagesse est un torrent qui déborde. » La source de la sagesse est un torrent qui déborde. Nous savons que l'eau est nécessaire à la vie. Sans eau, il n'y a nulle part de vie. D'ailleurs, il y a un appareil en ce moment, un robot, qui cherche des traces de vie sur Mars. De là, l'eau est aussi l'image de la vie spirituelle que Dieu donne à celle et à celui qui croit en lui. Le rocher frappé par Moïse est l'image de Jésus-Christ, évidemment. Le seul à donner de l'eau vive. Souvenons-nous de ce qu'il dit à la femme samaritaine. Source intarissable qui coule jusque dans la vie éternelle. Jean 6, verset 35, Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Jésus sous-entend, il aurait pu dire « Je suis la source d'eau vive. » Jean 7, verset 38, il est écrit « Des fleuves d'eau vive jailliront de lui, de Jésus. » Et il dit cela du Saint-Esprit qui allait venir à partir de la Pentecôte et pour tous les chrétiens. Mais le rocher a dû être frappé d'abord. Et ce n'est pas un hasard que Dieu demande de frapper le rocher. Alors, une fois, une seule fois. Symbole du Christ venu mourir sur la croix. D'abord frappé, humilié, mis à mort. Le seul parfaitement innocent. Mais ressuscité et source de l'eau vive pour tous ceux qui croient. Que l'eau vive du Saint-Esprit nous anime davantage. Puisque si le passage que Pierre nous a lu dans 2 Pierre est vraiment le programme pour nous chrétiens, c'est uniquement le Saint-Esprit qui peut accomplir cela vraiment en nous. Ce n'est pas par nos propres forces. Nous, notre rôle, c'est juste de nous approcher, de nous donner entre les mains de Dieu. Moïse a été formé et équipé pour son service, nous aussi. L'épreuve et la querelle ne sont pas des fatalités. Confions ces situations à notre Dieu. Et demandons l'eau vive du Saint-Esprit et Dieu nous donnera en abondance. Amen et que Dieu nous bénisse.